bienvenue pour ce nouveau numéro de Jeunes Radioactifs avec la participation d'InfoJeunes Laeken. Je suis accompagnée d'Aurore à la technique.
Bonjour.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, l'inscription en première secondaire en mode Covid. On vous donnera toutes les clés pour préparer au mieux votre entrée en première secondaire. Et pour ça, on sera accompagné comme toujours de notre invité Eric Brugemann, juriste à InfoJeunes Laeken.
Bonjour.
Bonjour. On se retrouve juste après le son de Grand Corps Malade avec Éducation nationale.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants ? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chances d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
Toujours à l'écoute sur Radio Panique, ces jeunes radioactifs avec le son de Grand Corps Malade pour Éducation nationale. On parle du décret inscription. Cette année, les inscriptions pour le premier degré seront ouvertes du 1er février au 5 mars 2021 dans l'établissement secondaire de première préférence. Mais attention, lors du congé de détente, du 15 au 19 février, les inscriptions ne seront pas possibles. Lors de votre inscription, vous aurez plusieurs documents à remplir. Le premier volet reprendra toute information générale de quoi vous identifier comme élève. Le deuxième reprendra la liste des écoles que vous voudriez rejoindre au cas où votre premier choix ne serait pas accepté et c'est là que tout se corse. Qui décide et comment faire pour être sûr d'être pris dans l'école de son choix? Du 5 mars au 25 avril, les inscriptions sont fermées. Après, c'est par ordre chronologique que les inscriptions sont traitées et comme on dit, premier arrivé, premier servi, s'il y a encore des places. Fin août, il ne restera normalement que les élèves sur liste d'attente et ceux-ci devront attendre jusqu'à leur retour le temps que la liste d'attente s'épuise, toujours par ordre chronologique. Mais ce système est-il bon et adapté à la demande que connaît notre pays ? Comment les écoles gèrent-elles toutes ces demandes et quels sont les critères pour espérer y accéder ? Voici les questions qui seront soumises à nos invités lors de notre nouvelle émission de Jeunes Radioactifs. On se retrouve après « C'est quand qu'on va où ?» de Renaud.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Mais maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
C'est Renaud avec C'est quand qu'on va où sur Radio Panique. Merci de nous rejoindre, c'est l'émission Jeunes Radioactifs. Infor Jeunes Lacun aide les parents et les jeunes à s'inscrire en première secondaire. Comment ? Quelles sont les particularités de ces inscriptions en mode Covid, Eric ?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la situation qu'on connaît actuellement, donc la situation de crise sanitaire, n'a pas changé la procédure elle-même, hein, puisque depuis l'année passée, on n'a pas effectué de changement de règles. Hein, c'était annoncé avant, donc, avant la crise Covid. Et donc, voilà, je veux dire, on a gardé les mêmes règles. Donc, fondamentalement, ça reste la même chose. Si ce n'est que, bon, forcément, dans les établissements scolaires où, on l'expliquera tout à l'heure, mais où il faut se rendre pour déposer le formulaire unique d'inscription, ben, les règles sanitaires seront d'application, mais la procédure elle-même va rester la même. Donc, qu'est-ce que InfoJeune fait, je dirais, dans un premier temps par rapport aux demandes concernant les inscriptions scolaires? Ben, ça se passe comme ça généralement, c'est que les personnes viennent pour obtenir de l'information par rapport justement aux écoles, les parents et l'élève donc, qui rentrera en première secondaire, ils vont rechercher des écoles qui leur conviennent. La plupart du temps, ils ont déjà certaines idées, mais bon, ils veulent quand même se faire conseiller. Donc nous, on est là un petit peu pour leur indiquer des caractéristiques des écoles. Ça ne veut pas dire que nous, on leur désigne la bonne école ou quoi que ce soit. La bonne école, ça n'existe pas. La bonne école, c'est celle qu'eux vont choisir. Et donc, il y a ce travail d'information qui est la base et qui est quand même la base d'InfoJeune, quoi. Et puis, pour ceux qui en ont besoin, qui en font la demande, on va éventuellement les aider davantage, c'est-à-dire les aider à remplir le formulaire si ça pose problème pour eux, parce que bon, c'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde. Hein, donc, j'anticipe peut-être un petit peu, mais je pense que Marie, tu en as dit un mot tout à l'heure. C'est qu'il y a en fait deux volets à ce formulaire. Il y a le formulaire unique d'inscription, celui qu'on va aller déposer dans son école de premier choix. Et puis, il y a le formulaire confidentiel. Et là, on reviendra là-dessus, sur les modalités après. Où en fait, on va indiquer dans l'ordre de préférence jusqu'à 10 écoles dont on fait le choix et où on souhaiterait voir son enfant inscrit. Donc ça veut dire que on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par ordre de préférence. Et on ira déposer le formulaire général dans l'école du premier choix.
Très bien, merci Eric. Et l'inscription en première secondaire a pour but de favoriser la mixité sociale. Mais les gens que vous aidez comprennent-ils à quoi cela sert, la mixité sociale ?
Ben, évidemment, on essaye de leur expliquer et ça vient souvent dans un entretien d'information. C'est vrai que la mixité sociale a depuis le départ, ça veut dire depuis le départ, hein, tout à fait l'origine du décret inscription. Si on va vraiment à la base, quoi, ça date de 2007, même si on ne l'appelait pas encore décret inscription à ce moment-là. Mais la mixité sociale faisait partie des objectifs majeurs. Alors, pourquoi finalement la mixité sociale ? Parce que bon, c'est pas, si on se dit c'est intéressant de se donner comme objectif le fait de favoriser la mixité sociale, c'est pas simplement parce que ça serait plus sympa, mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons qui ont été mises en évidence expérimentalement, je dirais. C'est que lorsqu'on a affaire à un groupe classe avec des élèves mélangés, c'est-à-dire à la fois des élèves qui sont, bon, pour faire court, qui sont plus en difficulté avec des élèves qui eux-mêmes sont plus en avance ou qui sont, disons, des meilleurs élèves, comme on dit, eh bien, ça a tendance à faire monter le niveau de ceux qui sont le plus en difficulté sans faire baisser le niveau de ceux qui sont le plus en avance. Bon, ça, c'est une première raison qui est importante. D'autre part, c'est parce que sur un plan plus social, ça va favoriser aussi l'apprentissage du vivre ensemble. Et puis, il y a encore une autre raison, mais là, on n'a pas le temps de rentrer ici dans les détails. C'est parce que, en fait, la mixité sociale va permettre au niveau du marché scolaire dans son ensemble, donc si vous voulez, au niveau du système scolaire dans son ensemble, de casser justement la logique de marché. Hein, puisque c'est quand même la logique de marché qui prévaut. Et quand on est dans une logique de marché, d'une part, on a la concurrence. Et d'une part, ben, c'est le plus fort qui l'emporte, quoi. Et donc, c'est pour casser cette logique-là et d'aller vers une école qui est plus égalitaire et qui favorise l'accès aux apprentissages et puis à l'insertion sociale après pour tout le monde. C'est ça, en fait, à la base, je dirais, les objectifs et les intentions du décret inscription.
Et arrive-t-on justement vraiment à mélanger les publics ?
Ben oui, c'est-à-dire que mélanger les publics, donc ce genre de décret permet, je dirais, par d'abord, c'est pas les écoles, donc il faut savoir que au moment, une fois que les inscriptions se font, justement, puisqu'il y a ce système de régulation qui existe, c'est pas les directeurs d'école qui subjectivement vont sélectionner. C'est plus comme ça en tout cas, même si c'était comme ça avant, justement, c'était pour en finir avec ça. C'est pas les directions d'école qui vont sélectionner les élèves, mais c'est justement l'algorithme, je dirais, de la communauté française, et donc concrètement, hein, ce qui sera contenu dans le logiciel comme demande d'inscription, qui va constituer des inscriptions dans des écoles en prenant en compte le critère de mixité sociale, mais aussi le critère géographique. Et puis bon, il y a aussi, mais ça on n'a pas le temps de développer ici, il y a aussi des critères des critères parfois aussi, le fait d'avoir un frère dans l'école, le fait d'avoir des parents qui travaillent dans l'école, ça peut être aussi un critère dont l'algorithme va tenir compte pour inscrire les élèves. Et donc, effectivement, ça a été mis au point pour faire ça d'une manière objective et en finir un petit peu avec la culture de l'entre-soi, qui était favorisé par le fait que les directions d'école auparavant pouvaient choisir ses élèves, quoi. Et donc c'est pour retourner cette logique-là, c'est plus l'école qui va choisir ses élèves, mais c'est les familles qui vont choisir l'école, quoi.
Et en fin de premier cycle, il y a un nettoyage, non, et exit le mélange ?
Mais ça, bon, c'est peut-être effectivement rapide, mais ça pointe quand même quelque chose qu'il ne faut pas contourner, parce qu'il y a quand même quelque chose de vrai. C'est vrai que le décret inscription, et ça on le sait malheureusement depuis des années, fait l'objet parfois de tentatives de contournement de la part de certaines écoles qui veulent garder leur caractère élitiste et le caractère d'entre-soi. Et donc, oui, on a déjà fait le constat, ou au minimum l'hypothèse, que dans certaines écoles, ben, comme par enchantement, entre guillemets, donc des écoles généralement qualifiées d'élitistes, certains élèves venant, je dirais, de milieux qui n'avaient pas accès auparavant à ce genre d'école, comme par hasard, je dirais, quitte l'école à la fin du premier degré, soit parce que, bon, on leur a mis beaucoup de pression dans l'apprentissage et ils n'ont pas pu bénéficier non plus de soutien pour réussir leur apprentissage, soit parce que, bon, ils ont fait l'objet de mesures d'exclusion à certains moments, quoi. Donc, c'est vrai, mais il ne faut pas généraliser non plus, hein, c'est pas, effectivement, cette espèce de rejet de certains élèves qui ne devraient pas avoir lieu, évidemment, et qui malheureusement continue parfois à se faire, tient au fait que le décret inscription et son application actuelle ne bénéficient pas de mesures et d'un dispositif suffisamment fort de régulation pour pouvoir éviter ça, quoi. Mais là, c'est un vaste débat. Mais bon, voilà quoi. Voilà pour répondre à ta question, en tout cas.
Et un fort jeune Laeken est satisfait de la réforme ou est-ce un bon début ?
Bah, c'est-à-dire, oui, on est satisfait, c'est-à-dire que nous, on a toujours été favorables à cette réforme, hein, qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, existe déjà depuis pas mal d'années, depuis bien plus de 10 ans. Donc nous, on a toujours soutenu cette réforme-là. Maintenant, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est loin d'être une panacée, c'est que ce qu'on a toujours dit, c'est que la régulation à partir de la première année du secondaire, en tant que telle, était insuffisante. Il aurait fallu, il faudrait ajouter à cela, ajouter au dispositif d'autres mécanismes de régulation, d'autres mécanismes qui vont dans le sens de plus d'égalité. Pour le moment, bon, on les attend, hein. Il y a des bonnes intentions qui ont été formulées dans le cadre des travaux qui avaient été effectués dans le cadre de l'excellence pour tous. Là, j'ai même du mal à revenir sur le nom exactement, c'est pas très grave, mais donc il y a eu en fait des mesures qui ont été prises et qui doivent être implémentées pour renforcer l'aspect égalitaire du système, mais hélas, je dirais, ces mesures sont en fait étalées sur une dizaine d'années. Donc, d'ici là, il peut y avoir encore beaucoup d'eau qui vont couler sous les ponts. On espère effectivement que ça va continuer dans le bon sens, mais voilà quoi. Alors évidemment, la situation actuelle avec la crise sanitaire n'arrange rien, puisque toutes ces réformes-là, pour le moment, ben, elles font pas la priorité. Puisque la priorité sur l'école, ben, c'est effectivement le problème du Covid, c'est le problème, et alors avec les conséquences et les effets qui en découlent, donc sur la motivation des élèves, le bien-être, la santé mentale, etc. etc. Hein, et c'est vrai, et c'est vraiment très important, évidemment, quoi. Donc voilà, donc encore beaucoup de pain sur la planche pour la suite, quoi.
Ce système est-il bien adapté à l'explosion du nombre d'inscrits ?
Ben, c'est-à-dire que le système en tant que tel, il est... Je ne sais pas exactement le nom... Bon, on parle, c'est vrai que ça, depuis un certain temps, on parle d'une explosion, notamment à Bruxelles. Mais bon, il y a quand même eu, là, il faut quand même être de bon compte, il y a quand même eu ces 3-4 dernières années la création de nouvelles écoles. Hein. Donc ça... Ça a été mentionné, et donc c'est bien le cas. Il y a eu des nouvelles écoles qui ont été créées, des écoles secondaires, qui ont été créées donc notamment en région bruxelloise, puisque c'est là que le problème démographique et le problème donc de capacité d'accueil dans les écoles se faisait le plus sentir, hein, où le besoin se faisait le plus sentir. Donc voilà, il y a eu des nouvelles écoles. Bon, ça c'est les capacités d'accueil, mais le fait de créer des nouvelles écoles, des nouveaux bâtiments et donc des nouvelles infrastructures avec finalement des nouvelles classes, c'est une chose et c'est une bonne chose, mais à lui seul, ça ne résout évidemment pas tout le problème, quoi. Donc là, je veux dire, il y a des mesures en termes de création d'écoles et d'infrastructures qui, heureusement, ont été faites. Mais ça ne résout pas tout le problème. Il y a tout le problème de la régulation. Parce que les bâtiments en tant que tels ne gèrent pas, ne suffisent pas à pouvoir gérer la régulation, quoi. Donc ça, je veux dire, ça a résolu en partie le problème concernant l'explosion du nombre d'élèves, quoi. En tout cas en région bruxelloise, quoi. Ouais.
Merci Eric. Ouais. On se retrouve après Pierre Perret avec les enfants, foutez-leur la paix.
Un enfant, quand il fait des ratures, c'est que déjà il sait faire quelque chose. Un enfant qui vole des confitures, c'est un gosse qui a besoin de glucose. Un enfant qui a brisé une soucoupe, ça vous prouve qu'il sait tenir un marteau. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, c'est son droit s'il préfère les gâteaux. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien. et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant, c'est beau, c'est merveilleux, c'est gentil et c'est si naturel. Quand il a des nouilles dans les cheveux, c'est qu'il a descendu la poubelle. Un enfant qui sait pas l'alphabet, c'est un gosse qui a besoin de vacances. Un enfant qui avale un porte-monnaie, c'est parce qu'il fait une crise de croissance. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. Un enfant qui chope la varicelle, c'est à cause du triangle isocèle. Un enfant qui n'aime pas les radis, en voudra si ça lui est interdit. Un enfant qui met le coude sur la table, ça vaut mieux que dans l'œil de sa maman. Un enfant qui a des notes minables, c'est parce qu'il s'est trompé en copiant. Les enfants, foutez-leur la paix. Croyez-moi, laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent rien et qui mettent la panique chez les voisins. La la la.
C'est l'émission Jeune Radioactif. Eric, inscrire son enfant en première secondaire, c'est surtout surveiller des dates sur un calendrier. Lesquelles ?
Oui, tu en avais déjà un peu parlé au début. Hein, donc, alors, des dates vraiment importantes, je dirais qu'avant le 1er février, il y a le fait que pour le 22 janvier, on y est déjà, c'est déjà passé, mais donc pour le 22 janvier, les directions des écoles primaires ont déjà dû donner à toutes les familles qui ont un enfant qui va passer en première année commune, qui est censé passer en première année secondaire commune en septembre prochain. Donc le formulaire unique d'inscription, il est vraiment personnalisé, c'est pas quelque chose, je dirais, qu'on peut dupliquer ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment personnel. Donc ces directions d'école ont déjà dû en fait donner le formulaire. Elles ont un peu carte blanche sur la manière de faire, mais elles ont dû déjà donner une première information, et il y a des directions d'école primaires qui le font vraiment très très bien. Donc une première information concernant justement le fonctionnement des inscriptions. Donc ça, c'est pour le formulaire. Alors, l'inscription proprement dite, comme on disait tout à l'heure, la période vraiment, ça c'est les dates les plus importantes à retenir, parce qu'il faut vraiment encourager au maximum les gens à s'inscrire à ce moment-là, c'est-à-dire durant la période qui va du 1er février au 5 mars. Avec, effectivement, je crois que tu le soulignais tout à l'heure aussi, une pause durant la semaine de carnaval qui est prévue entre le 15 et le 19 février. Mais sinon, donc, du 1er février au 5 mars, c'est à ce moment-là qu'il faut se rendre dans l'école du premier choix, hein, l'école de son premier choix, pour déposer le formulaire unique d'inscription. Ça, c'est le formulaire général. Et c'est tout ce qu'on demande, d'ailleurs, il faut aller déposer donc le formulaire unique d'inscription. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, il y a un autre volet qui est le formulaire confidentiel, où là, justement, on va mettre les écoles, on peut aller jusqu'à 10 écoles qui vont du premier choix jusqu'au 10e. Nous, on dit, bon, ok, vous pouvez mettre 10 écoles, mais bon, vous pouvez en mettre 5, c'est déjà bien, au moins 5, allez, au moins 5. Et donc, ça, vous pouvez éventuellement le remettre à l'école sous enveloppe aussi, sous enveloppe fermée, mais c'est pas la meilleure manière, parce que c'est pas du tout la plus rapide. Donc la meilleure manière de faire, c'est de compléter la requête informatique. La requête informatique qu'on peut retrouver sur l'application Siri. Donc ça aussi, on peut revenir peut-être tout à l'heure là-dessus. Il y a une application Siri qui a été mise au point, donc on peut consulter et utiliser sur un portable ou bien sur un PC, qui a été mise au point donc, par la communauté française et où les personnes vont pouvoir remplir donc, ce volet confidentiel. Ce sera beaucoup plus rapide. Ce sera beaucoup plus rapide par cette voie-là. Donc il faut quand même encourager les personnes à le faire par la voie électronique, donc par la requête électronique. Donc ça, c'est tout ça, c'est pendant la période du 1er février au 5 mars. Après, entre le 6 mars et le 25 avril, il y a une suspension des inscriptions. Donc on ne peut plus aller dans une école pour s'inscrire. Pourquoi est-ce qu'il y a une suspension ? Parce que le traitement, justement, des demandes, le traitement des requêtes se fait à ce moment-là. Et donc, normalement, la toute grande majorité des gens auront déjà une réponse, et une réponse ferme, dans les 15 jours qui suivent le 6 mars. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, tout le monde n'aura pas forcément une réponse ferme. Et tout le monde, évidemment, n'aura pas l'école du premier choix. Parce que si tout le monde pouvait avoir l'école de son premier choix, il n'y aurait pas besoin de faire une procédure de régulation. Mais, en tout cas, la plupart auront une réponse et éventuellement... je dirais dans le pire des cas, si je peux le dire, c'est pas pire, mais je veux dire, ils auront en tout cas, ils seront sur une liste d'attente dans certaines écoles. Bon, donc ça veut dire que de toute façon, on prend en compte leurs requêtes, quoi. Ça, c'est une chose. Et alors, je disais suspension jusqu'au 25 avril. Donc après le 26 avril, si jamais on a loupé la phase là entre le 1er février et le 5 mars. Où là, ça sert à rien de courir, hein, entre le 1er février et le 5 mars. C'est pas premier arrivé, premier servi. C'est vraiment, on peut très bien, il faut pas se précipiter le premier jour à la première heure. On va déposer le formulaire durant cette période-là, et peu importe que vous ayez été avant le voisin ou avant l'autre personne que vous connaissez, ça ne joue en aucun cas dans la procédure, quoi. Donc, par contre, si on a loupé cette phase du 1er février au 5 mars, et c'est pour ça que c'est important de ne pas la louper, à ce moment-là, les inscriptions reprennent le 26 avril, mais alors elles reprennent d'une manière... l'inscription se fait d'une manière chronologique, où là, effectivement, ce sera en fonction de ce qui va rester, puisque... la prise en compte des inscriptions durant la phase de février jusqu'au 5 mars aura déjà été traitée. Et donc, il faudra effectivement voir avec ce qui reste comme possibilité. Et ce seront les... Alors là, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Donc, on entre de nouveau, alors à ce moment-là, dans une autre logique, quoi. Donc voilà, ça c'est, je dirais, pour pas trop compliquer le truc, ça c'est les dates à retenir, quoi.
Et donc, quel document le parent doit-il présenter ?
Ben donc, le parent, en fait, durant la période donc, d'inscription qui est prévue entre le 1er février, mais après aussi, hein, mais, le 1er février et le 5 mars, il ne présente que... il n'est tenu de présenter uniquement le formulaire unique d'inscription. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas demander à ce moment-là et mettre des conditions du genre ouais mais amenez-nous le bulletin des années enfin de l'année précédente ou des deux années de primaire des deux dernières années de primaire ou même normalement la carte d'identité ne fait pas partie des prérequis. Il n'y a pas évidemment de lettre de motivation non plus. Ça ne rentre pas en ligne de compte, puisque vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que la subjectivité de la direction d'école qui veut faire sa sélection ne puisse pas se faire, ne puisse plus se faire comme ça se faisait à une autre époque dans le temps. Donc voilà, le formulaire unique d'inscription uniquement.
D'accord, merci. On s'inscrit alors que le CEB est en juin. Est-ce logique ?
Ben, donc, c'est vrai que là, tu pointes quelque chose qui est important aussi parce que ça peut laisser et ça laisse. Donc, ça, c'est une des lacunes, je dirais, du décret toujours actuellement. C'est que ce décret, il est fait pour donc ceux qui vont accéder en première, secondaire, commune. Et pour accéder en première année secondaire commune, il faut le CEB. Si malheureusement le jeune n'a pas obtenu son CEB à l'issue de la dernière année de primaire, à ce moment-là, soit il peut demander à recommencer une année de sixième primaire s'il ne l'a jamais fait, ou alors éventuellement il peut demander à accéder en premier, ce qu'on appelle les années différenciées, donc en première année différenciée, ce qui est une première secondaire aussi, mais ce n'est pas une première commune. Donc, ça veut dire que d'une part, toutes les écoles secondaires n'organisent pas des premières années différenciées. Donc, ça restreint déjà l'éventail des choix. Et que d'autre part, ça veut dire aussi que les parents vont devoir aller frapper aux portes des écoles qui organisent une première année différenciée. Et que donc, ce cas de figure-là n'est pas pris en compte, malheureusement, dans le décret inscription. Donc voilà. Mais bon, pour répondre peut-être encore de façon plus directe aussi à ta question, le CEB, donc forcément, ça doit... C'est-à-dire que le fait d'avoir le CEB vient confirmer de manière finale le choix de l'école qui aura été fait. Puisque l'hypothèse qui est faite, c'est qu'il va s'inscrire en première année commune. Donc, c'est qu'il aura son CEB. Mais si par malheur, il ne l'a pas, ça veut dire qu'il va devoir s'inscrire dans une classe différenciée ou alors éventuellement redoubler une sixième primaire, quoi. Et donc, il faut le faire pour que toutes ces procédures qui est quand même un peu complexe et qui est traitée par le ministère puissent se faire... De manière harmonieuse, quoi. Et en tout cas, avec le moins... On sait bien que ça génère toujours beaucoup de stress, mais en essayant de le réduire au maximum, il faut quand même du temps, quoi. Et si on devait attendre le 30 juin, parce que le CEB est délivré le 30 juin, pour faire l'inscription, l'élève est censé rentrer le 1er septembre, entre les deux, il y a les vacances. C'est pas possible de gérer ça à ce moment-là. Ouais, c'est pas sûr. Possible de gérer ça au 30 juin, quoi. Voilà. Ça, c'était pour répondre à ta question.
Et est-ce que l'on s'inscrit avec le bulletin de son enfant et le carnet de comportement avec toutes les remarques disciplinaires ?
Ben non. C'est comme je disais, enfin là, on revient à deux questions avant. C'est-à-dire que le formulaire unique d'inscription suffit. Donc, il n'y a pas lieu de demander des suppléments du genre bulletin avec les résultats. Donc, en fait, l'inscription, le choix d'une école n'est pas conditionné ni d'une part par les résultats obtenus en primaire, et n'est pas conditionné non plus par les aspects disciplinaires, évidemment, quoi. C'est d'autres choses et qui doivent suivre d'autres traitements, mais on ne peut pas faire de ça des conditions d'inscription en aucun cas, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait si son enfant n'a pas d'école à la rentrée de septembre ?
Oui, alors là, c'est... Bon, d'abord, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que ce sera le cas de très peu de personnes. Généralement, chaque année, c'est... La toute grande majorité des élèves ont une école au 1er septembre. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu malheureusement d'école. C'est pour ça aussi, parfois, les parents n'ont pas mis suffisamment d'école dans ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le volet confidentiel où on peut mettre jusqu'à 10 écoles. Si je ne mets qu'une ou deux écoles, ça va être restreint. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la CIRI, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais donc c'est important, je vous ai parlé de l'application de la CIRI tout à l'heure, l'application, je veux dire, informatique, qu'on peut retrouver sur le site de la communauté française qui d'année en année est de mieux en mieux perfectionné, quoi. Donc c'est le site, c'est inscription.cfwb.be. Et donc, il y a une application Siri où là, effectivement, si on tarde, enfin, si le temps passe et que on voit qu'on n'a toujours pas de réponse, il faudrait relancer à ce moment-là la Siri qui va faire des propositions à la famille, des propositions d'école. Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention sur une chose, c'est que bon, c'est un phénomène qui existe depuis des années, c'est que par voie de presse, il y a des parents qui en fait attirent l'attention sur le fait que leurs enfants n'auraient pas d'école. Je ne parle pas ici des enfants qui n'ont pas vraiment d'école. Ça peut arriver, mais c'est très très rare, quoi. Mais en fait, il existe des parents qui en fait sont depuis déjà longtemps en opposition avec le décret inscription et qui ne veulent pas du décret inscription et qui donc en fait ont rempli sur la feuille confidentielle, ils ont mis simplement une école et ils veulent cette école-là et pas une autre. Et donc La Siri, ça veut dire donc Commission Interréseau des Inscriptions, hein. Puisque bon, c'est un service de la communauté française qui ne privilégie aucun des réseaux scolaires, qui est au-delà des réseaux et qui traite de manière égale les demandes pour tous les réseaux. Okay. Et c'est eux qui vont traiter justement les demandes à partir du moment où il n'y avait pas de place, où la demande, je dirais, ne peut pas se faire directement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui il n'y aura aucun problème, par exemple, s'ils sollicitent une école qui n'est pas complète. Hein, puisque quand l'école a en fait une offre de place qui est supérieure à la demande, ça arrive, ben, à partir de ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Je dirais, dès le lendemain des inscriptions, on aura la réponse comme quoi, ok, on peut vous inscrire, quoi. Vous êtes inscrit. Ouais. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est pas des... Mais il y a des écoles, effectivement, qui sont très sollicitées, et c'est là, beaucoup plus, où ça pose problème. Et donc, la commission interréseau. Donc, quand je reviens à l'histoire là, de famille qui, elle-même, ne voulait qu'une seule école et rien d'autre, bon, c'est pas possible parce que les critères font que, hein, et là, ils sont pas ressortis, leur nom n'est pas ressorti avec l'algorithme dans les personnes qu'on pouvait inscrire. À ce moment-là, la Siri leur a déjà souvent fait une proposition, et c'est normal, parce que bon, déjà, pour Pâques, on leur a déjà sûrement fait des propositions d'autres écoles alternatives, alors qu'eux-mêmes n'avaient mis aucun autre nom. Mais bon, il faut que l'élève soit inscrit. Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, et ils disent, non, nous, c'était cette école-là et rien d'autre. Alors bon, c'est souvent aussi des parents qui... c'est pas des parents qui ont des difficultés sociales généralement, c'est des parents aussi qui ont un accès aux médias que d'autres n'ont pas, enfin que d'autres ne sont pas forcément en capacité d'avoir, quoi. Et donc ils se disent, mais c'est scandaleux, on est des sans école fixe, enfin ils ont fait parfois des amalgames avec, enfin je me rappelle un peu d'autres années, quoi, avec sans domicile fixe, nous on est des sans école. Et bon, quelque part, c'est vraiment tromper son monde, parce que ça veut dire, en fait, ça veut dire simplement que, bon, nous on veut aller dans telle école, c'est pas possible avec le décret, donc on n'a pas d'école, point. Mais donc il faut un peu démystifier ça, parce que chaque année, les médias, même les médias mainstream, hein, bon, ils se laissent embarquer par ça parfois. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut démystifier aussi. Donc finalement, je dirais, ceux qui au 1er septembre n'ont vraiment pas d'école, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Mm-hmm.
Merci Eric. On revient après Jean-Jacques Goldman pour Il changeait la vie.
Un cordonnier la beauté. Il mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit tant de temps, de larmes et de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées jour après jour de son souffle et de ses cris.
La vie sur Radio Panique, ces jeunes radioactifs. Eric, tu es confronté à des gens désemparés avec l'institution, l'école, l'inscription, la procédure, le règlement. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces familles ou ces jeunes qui ne comprennent rien à toute cette procédure ?
Il peut y avoir beaucoup de réactions différentes. Hein. Donc, d'abord, je veux dire, il ne faut pas laisser croire que tout le monde n'y comprend rien. D'abord parce que c'est loin d'être le cas. Je veux dire, ça devient de plus en plus rare, heureusement, parce que ça fait quand même de nombreuses années que ça existe. Donc c'est quand même rentré un peu dans la culture scolaire et donc aussi dans l'esprit des gens qui ont des enfants, qui vont à l'école. Mais comme je disais tout à l'heure, maintenant aussi, dans les semaines qui précèdent la période des inscriptions, les écoles primaires, les directions d'écoles primaires ont dû remettre, et elles l'ont fait, les formulaires uniques personnalisés, mais pas uniquement. Elles ont aussi fait une information et avec le temps, les directions d'école, je pense majoritairement, je parle des écoles primaires, font de mieux en mieux cette information. Les écoles secondaires elles-mêmes, pour la plupart, font aussi une information sur l'inscription en première secondaire. Donc, du côté de l'école, ils ont aussi pour mission déjà de fournir ces premiers éléments, ben, c'est quand même normal qu'ils le fassent, aux familles, quoi. Maintenant, attention aussi du côté des écoles secondaires. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des écoles plus élitistes, des écoles qui voulaient garder un certain entre-soi. Certaines peuvent tenter, par le biais de séances d'information, de dissuader certains publics de venir s'inscrire chez eux. Ça ne se fait pas d'une manière lourde, hein, la plupart du temps. Ça se fait d'une manière un peu, souvent un peu subtile, je dirais. Je vais donner un petit exemple. Je ne vais pas citer d'école, mais je vais donner un petit exemple. D'une école, par exemple, qui dit... ouais, ben chez nous, par exemple, donc d'abord une école qui, pour le cursus secondaire, n'organise que du général. Bon, ben on sait bien que les écoles qui n'organisent que du général, ben souvent, donc ça ne laisse pas la possibilité à l'intérieur de l'école non plus d'avoir beaucoup de mobilité vers, vers des options du général, mais pas vers d'autres options. Et puis d'autre part, ces écoles-là, parfois elles vont vous dire... Ouais, mais chez nous, ils vont glisser à un moment donné dans l'information. Vous savez, le bulletin, les résultats que vous avez eus en primaire, légalement, ça n'est pas une condition pour ne pas vous inscrire. Mais nous, on vous dit que avec le niveau d'exigence que l'on a, si votre enfant n'a pas eu 80% à la fin de la sixième, ça va vraiment être très dur pour lui, quoi. Donc c'est une manière de faire passer un message déjà de dissuasion, quoi. Ouais. Alors que bon, ça va être très dur pour lui, oui, mais ils oublient d'ajouter que normalement, la mission de l'école aussi, c'est d'aider justement ceux qui sont plus en difficulté à pouvoir suivre dans cette école-là. Or, un des gros problèmes, et ça c'est aussi un des éléments qui manque à l'heure actuelle, c'est que tout ce qui est soutien scolaire, remédiation scolaire, normalement c'est intégré. Maintenant, moi, j'ai eu pas mal de retours disant aussi que justement cette remédiation qui se faisait bon an mal an dans certaines écoles, avec la crise Covid déjà, ça a été un peu mis sur le côté. Donc, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est soutien et remédiation fait l'objet d'un marché extrascolaire, hein, donc ce qu'on peut appeler des écoles privées, qui font payer cher et vilain des cours de soutien, des cours de rattrapage, apprendre à apprendre et tout ça. Donc c'est, je veux dire, ça devrait être réintégré au sein même du système scolaire et pas laissé au marché privé, extrascolaire, ces choses-là. Donc tout ça fait que ça pose pas mal de difficultés. Par exemple, un autre exemple, c'est dans une séance d'information, ils vont nous dire « Oui, mais nous, on fait aussi, par exemple, notre valeur ajoutée dans cette école, c'est qu'on organise des cours en immersion. » Donc des cours en immersion, quand c'est à Bruxelles, c'est pour 11 heures semaine minimum, on fait par exemple des maths, de la géo, etc. En néerlandais, hein, puisque l'immersion est la meilleure manière de s'approprier une langue. Bon. Mais est-ce qu'on oublie de dire aussi... Et donc, ouais, et ils ajoutent, et donc il faut déjà avoir de bonnes bases d'une part en néerlandais et avoir un très bon maniement de la langue maternelle pour pouvoir s'initier à une deuxième langue, de cette façon-là. Et donc forcément, c'est une manière aussi déjà de sélectionner, parce qu'on sait très bien que l'immersion, qui existe déjà depuis le fondamental, hein, donc depuis l'enseignement fondamental, mais l'immersion, en fait, est un système qui est suivi essentiellement par des élèves issus quand même des milieux plus favorisés, oui, c'est pas généralement l'immersion n'est pas suivie par les enfants des milieux populaires, par exemple. Mmh. Bon, ça c'est clair, quoi. Statistiquement, c'est démontré. Donc voilà. Ça, je voulais le dire en plus, quoi. Je veux dire parce que ça c'est pas directement nécessairement le témoignage des parents, mais nous on a été l'observer sur place dans des séances d'information. Bon, on a fait même des vidéos, des caméras là-dessus, quoi. voilà quoi, sur des séances d'information où on montrait un petit peu les biais qui existaient dans ce type d'information, quoi. Et alors, bon, les gens aussi qui viennent, oui, c'est toujours, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'une bonne école ? Enfin, ils disent pas ça comme ça, hein, mais je veux dire, ils voudraient qu'on leur désigne la bonne école. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de montrer un peu un panel d'écoles, je veux dire, en essayant de tenir compte aussi, je veux dire, de leurs desiderata, et en fonction un petit peu de ce que eux pressentent comme étant une école favorable pour eux, on essaye de leur montrer ce qui reste, enfin ce qu'il y a comme école. Ouais, je dis ce qui reste parce que je parlais du site là, de la communauté française inscription.cfwb.be. Si on va sur ce site aussi, je parlais de l'application Siri qui est importante, mais à côté de ça, il existe aussi un tableau statistique que l'on peut, alors au moment des inscriptions, activer avec le nombre de places qui restent en temps réel dans chaque école. Donc ça permet de savoir aussi, tiens, est-ce qu'il va rester beaucoup de places dans telle école ou pas ? Hein, ça, c'est quand même un élément d'information important aussi, quoi. Donc voilà, parce que je pense que tu avais... Ouais, tu as encore une question là, tu veux...
mais on revient un petit peu sur le sujet. Mais si un jeune vient à toi en septembre et qu'il n'a pas encore d'école secondaire à la rentrée, que doit-il faire ?
Ouais, ben là, donc j'ai un peu expliqué parfois ce que ça voulait dire avoir vraiment, je dirais, ne pas avoir une école. Si c'est vraiment le cas, ce qu'il faut faire, c'est contacter la Syrie. Donc, si vraiment les gens sont un peu perdus par eux-mêmes, nous, on peut les aider, évidemment. Je rappelle que, toujours sur le site de la communauté française, là, il y a cette application Siri et qui permet effectivement de les contacter de la manière la plus rapide. Maintenant, bon, s'ils ont besoin d'un coup de pouce, on peut les aider pour établir ce contact.
Ok, merci beaucoup, Eric, pour tes réponses.
Voilà, rien, merci. Voilà, merci à toi. Voilà.
Notre émission touche à sa fin. Si tu veux des infos supplémentaires, tu peux nous visiter sur notre site internet www.inforjeune.eu ou nous téléphoner au 02 421 71 30. Si tu veux faire partie de notre équipe de jeunes radioactifs, alors contacte Aurore au 02 421 71 30. C'était la bande des jeunes radioactifs. On se donne rendez-vous le 24 février. Salut et à bientôt sur Radio Panique pour un nouveau numéro de jeunes radioactifs. Bye bye.